simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
On a des députés français, bon, en particulier les macronistes et l'extrême droite, qui ont fait passer un nouveau régime d'exception qui est un état d'alerte et de sécurité nationale. Voilà, donc en fait, en réalité, on suit ça depuis quelques temps, hein, enfin pour les personnes qui s'intéressent un peu à la question de la militarisation. Le Premier ministre Le Cornu, il met ça un petit peu dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a fait plusieurs discours en ce sens qui sont d'ailleurs extrêmement inquiétants. Il a fait un discours à l'Assemblée nationale dès le mois de mars pour dire qu'il allait falloir non seulement augmenter les budgets, mais il dit la réponse ne doit pas être que budgétaire. Il faut une bataille culturelle, intellectuelle, civique pour mettre la population, qu'elle fasse corps avec l'armée, quoi. Donc ça, c'est des discours qui sont quand même extrêmement inquiétants, qui sont absolument pas combattus par, en tout cas pas suffisamment, on va dire, par l'aile gauche de la classe politique, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, mais on y reviendra. Mais voilà, tout ça pour dire que là, on est dans l'actualité immédiate, c'est-à-dire que le 18 mai, il y a cet état d'alerte de sécurité nationale qui a été validé dans son principe, avec la possibilité donc d'un état d'exception illimité, non pas antiterroriste comme on a pu avoir, hein, cette espèce d'état d'exception qui est d'ailleurs en partie rentré dans le droit commun, mais là, un état d'exception pour préparer la France à la guerre. Alors, ça, c'est tout un tas, effectivement, de dispositions qui permettent de sortir du droit commun, accélérer, bon, augmenter les réquisitions, c'est-à-dire des réquisitions de travailleurs, non pas uniquement dans le domaine militaire, mais également dans tous les domaines essentiels à la vie de la nation, hein, c'est ce qu'il dit, mais en fait, ça peut s'étendre assez largement, on voit bien. Donc, très concrètement, c'est réduire les droits des travailleurs et la capacité d'action collective, hein. Passer outre tout un tas, enfin des dérogations en rafale pour aller plus vite sur tout un tas de projets industriels. Alors là, la ministre des Armées a parlé de construire plus vite des hangars pour stocker des rafales. Mais voilà, on voit bien l'exemple, c'est-à-dire que du coup, les promoteurs et l'État vont pouvoir faire passer en force tout un tas de projets d'aménagement sans toutes les procédures à la fois d'urbanisme et les règles écologiques. Donc voilà, accélérer. Et tout ça pour augmenter la cadence. Et puis effectivement, il y a tout un volet attentatoire aux libertés avec des possibilités de fouilles, de contrôle du territoire, de déployer l'armée dans l'espace public, même si c'est déjà largement le cas avec Sentinelle. Voilà, tout un petit package qui à la fois prépare les esprits et donne un cadre à l'accélération de la militarisation. Et donc ça, c'est passé. Voilà, état d'exception illimité, ratifié sans grand chambardement. Et ça s'inscrit en fait là dans... Je commence dans le dur tout de suite là par l'actualité immédiate, mais c'est rien que ces dernières semaines, quand on veille un peu, en fait quasiment tous les jours, il y a une annonce affolante sur la question de la guerre et de la militarisation. L'État français a créé une structure qui s'appelle France Munitions il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a eu France Travail, toutes ces conneries. France Munitions... Ouais, c'est très start-up, et qui est un grossiste de l'armement pour aider les entreprises à produire plus vite et à mieux vendre leur production. Il y a un général de l'armée française qui a été nommé au sein de France Travail, dans une branche de France Travail, pour accélérer et favoriser les recrutements de chômeurs vers le complexe militaro-industriel dans la production d'armes. On a un ministre du Travail qui a déclaré il y a quelques mois maintenant, mais qui dit texto, la guerre, donc je cite, hein, est une formidable opportunité pour réarmer notre économie. Voilà, il le dit, mais c'est bien, ils le disent, on est que, bon, d'une certaine manière, c'est aussi la preuve qu'on est extrêmement faible. Du coup, ils disent les choses sans complexe. Hein. Et donc, ce que ça dit derrière ça, c'est que le capitalisme en crise, et même, j'ai envie de dire, la polycrise, c'est-à-dire la crise du capital, mais aussi la crise sociale, écologique, la crise de légitimité politique de nos gouvernants, elle va être réglée, en tout cas dans leur plan, dans leur tête, elle va être réglée par la guerre. Ça, c'est assez clair, là, maintenant, je pense. C'était peut-être pas aussi clair quand j'ai commencé à écrire le livre. Là, c'est assez clair que la solution est une guerre, plutôt une guerre avec un continuum, hein, guerre intérieure, guerre extérieure, tout ça, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, il y a toutes ces annonces-là. Et parmi les faits là d'actualité immédiate, il y a également la conversion de chaînes de production chez Renault, donc le fabricant de bagnoles, pour fabriquer des drones militaires. Ouais, et puis ils sont très contents, ils ont dit on va pouvoir commencer ça dès le, ça a été annoncé au début de l'année, et ils ont dit on va pouvoir commencer ça dès le mois de, dès le printemps 2026, parce qu'en fait nos ingénieurs ont conçu la fabrication des drones pour être fabriqués quasiment avec les mêmes process et les mêmes matériaux que les bagnoles, quoi, pour que ça aille vite. Donc, comme quoi, quand ils veulent être efficaces et produire rapidement des choses, ils sont capables, ils vont plus produire des drones plus vite que des masques pendant la crise du Covid, quoi. Et donc, et cet exemple, il est important parce que il révèle la transition, enfin d'une part l'hybridation entre l'industrie civile et militaire, et puis voilà le basculement de la production civile vers la production de guerre. Et on sait très bien que l'industrie de la bagnole en Occident, c'est le signe, l'indicateur d'une bonne santé économique d'un pays. Hein, enfin voilà, les fermetures d'usines de bagnoles, c'est souvent interprété comme un signe inquiétant. Donc voilà, Renault se convertit à la production de guerre, mais c'est pas du tout spécifique à la France. En Allemagne, Volkswagen se convertit à la production militaire. Et aux États-Unis, Donald Trump a incité les Big Five, je crois, enfin bon, les General Motors, Ford, etc., les grandes firmes de bagnoles, pareil, à orienter une partie de leur production vers la fabrication d'armes. Donc voilà, ça c'est un petit peu en guise d'ouverture sur voilà là où on en est, là où on va. Rien que ces dernières heures et ces derniers jours. Mais du coup, je vais commencer quand même par me présenter et présenter mon travail pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Donc moi, je m'appelle Pierre Douillard-Lefebvre. Je suis nantais et ce qui m'a amené d'une certaine manière ici ce soir, c'est parce qu'il y a quasiment 20 ans maintenant, en 2007, donc il y a très longtemps, quand j'étais lycéen, j'avais 16 ans et je manifestais contre une loi qui s'appelait la loi LRU, responsabilité des universités, qui est une des premières lois qui a commencé à privatiser l'université française, instaurée par Valérie Pécresse. Donc, il y a toujours un peu les mêmes personnalités qui polluent l'espace politique comme ça pendant longtemps. Et à cette époque-là, il y avait des grands mouvements lycéens et étudiants. Et dans ce cadre-là, j'ai reçu un tir de LBD, de lanceur de balles de défense, de balles en caoutchouc, par la police, à côté de l'œil. Donc j'ai perdu l'usage de mon œil droit à 16 ans. Et il s'avère en fait que... Alors à l'époque, le LBD, tout le monde sait à peu près ce que c'est, j'imagine, dans cette pièce. On est quand même face à un public sensibilisé. C'est une arme qu'on a l'habitude désormais de voir dans nos vies. C'est quelque chose qui s'est imposé dans les manifestations, qui est quotidien, qui est dans les mains de tous les policiers. En 2007, c'était absolument pas le cas. C'était complètement nouveau. Et d'ailleurs, donc c'était un policier cagoulé qui, moi, que j'ai vu me mettre en joue avec cette arme d'épaule, hein, qui se tient comme un fusil. Donc la génération de mes parents, par exemple, ils étaient là. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, un policier cagoulé qui vise des lycéens mineurs? Et donc, à l'époque, le LBD était en phase d'expérimentation. Donc ça, on l'a découvert après, parce qu'on était au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le nouveau gouvernement faisait tester une arme qui était beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise que le flashball, l'ancienne génération qui tirait des balles en caoutchouc qui avait été distribuée à partir des années 80, fin des années 90. Et donc, à partir de cette blessure, bon, il y a eu un combat judiciaire. Évidemment, le policier tireur a été relaxé, comme dans l'écrasante majorité des cas. Mais de ce combat-là, on a créé des collectifs de soutien aux blessés par la police contre les violences d'État, mais j'ai aussi voulu comprendre quelle était cette arme, le lanceur de balles de défense, quelle était son histoire, qui produisait cette arme, quels étaient ses fabricants, qui gagnait de l'argent en fait sur la terreur d'État, quelle était la doctrine qui avait mené à l'utilisation d'armes qui mutilent et qui frappent les corps. Et donc de là, j'ai bossé sur le concept de militarisation. Voilà, donc ça fait quand même un certain temps. Et d'abord, l'idée de militarisation de la police, puisque c'était de ça dont il était question à l'époque, la militarisation de la police. Donc déjà, l'idée de militarisation, ça veut dire que c'est un processus. C'est pas une photographie, c'est pas un moment figé. Vous le voyez, en 2007, il y a eu une accélération de la militarisation, et aujourd'hui, on n'a jamais cessé de voir cette militarisation progresser et s'aggraver. La militarisation de la police, c'est l'effacement progressif de la frontière entre une opération de police et une opération de guerre, entre une opération dite de maintien de l'ordre et une opération dite de maintien de la paix, puisque le terme cynique pour qualifier la guerre, c'est le maintien de la paix, hein, comme vous le savez. Et donc, il y a cet effacement progressif où la police emprunte de plus en plus un armement, une doctrine, des mots, des concepts, un imaginaire issu de la guerre. Alors pour moi, à l'époque, et pour d'autres, hein, je suis pas le seul à faire des recherches là-dessus, pour moi, le LBD, c'était une incarnation de cette militarisation de la police. Puisque donc ce lanceur de balles de défense est une arme de catégorie A, donc considérée comme une arme de guerre. C'est une arme à feu avec un canon rayé qui permet de tirer très précisément sur la population civile. En réalité, ce qu'on voit, c'est que depuis 2007, l'armement de la police n'a jamais cessé de se durcir, d'être de plus en plus dévastateur, violent, etc. Et donc, on a tout un tas d'incarnations très concrètes de ce processus de militarisation. Mais parmi les exemples les plus évidents, c'est l'achat par l'État français de blindés pour la gendarmerie, donc les nouveaux blindés qu'on appelle Centaure. Et ça, c'est intéressant d'une certaine manière parce que donc il y a eu une commande de blindés pendant le Covid par le gouvernement. Et ces blindés Centaure, ils sont utilisés par l'armée française depuis des années sur des opérations extérieures, notamment en Afrique. Ces blindés-là, ils sont utilisés par l'armée avec des fusils mitrailleurs sur le toit. Et dans leur usage civil, c'est-à-dire par la gendarmerie française, on a mis un lanceur de grenades lacrymogènes sur le toit, mais sinon c'est le même appareil. Donc vous voyez, il y a une conversion d'un engin militaire, d'un blindé militaire à un engin civil. Et donc ces Centaures, on les a vus à Sainte-Soline, on les a vus contre le mouvement Bloquons Tout là, le 10 septembre dans plusieurs villes. On les a vus sur la lutte contre la ligne grande vitesse dans le sud-ouest. Il me semble qu'ils ont été déployés. Enfin, vous voyez, donc maintenant, de plus en plus, on envoie des blindés de fabrication, de conception militaire contre la population. Et évidemment, on les a vus en Kanaky, à Mayotte et dans toutes les colonies françaises utilisées pour le coup abondamment et sans retenue. Donc cette militarisation n'a jamais cessé de progresser. Chaque véhicule de police désormais est équipé d'un fusil mitrailleur de guerre, hein, une arme de guerre au nom de l'antiterrorisme, fusil mitrailleur HKG-36, qui a été utilisé dans le cadre de refus d'obtempérer. C'est-à-dire que désormais, pour un contrôle routier, on a des policiers qui ont pu dégainer un fusil mitrailleur utilisé notamment par l'armée allemande avec des effets, vous l'imaginez, dévastateurs. Et puis globalement, il suffit de voir la manière dont se déplacent et sont équipés les policiers. Aujourd'hui, ils sont équipés comme des militaires. Ils ont des cagoules, ils ont des gilets pare-balles, ils sont harnachés à la manière des militaires. Donc cette militarisation, elle se voit de façon très claire sur sur l'aspect matériel. Mais en fait, cette militarisation, elle s'incarne aussi par des représentations du monde. Les policiers sont en guerre contre la population, ils sont en guerre contre des catégories de population, et c'est extrêmement clair quand on a des policiers ou des gendarmes ou des syndicalistes policiers qui sont invités dans les médias, parce que les mots qu'ils utilisent le disent très clairement. Quand ils sont interrogés suite à une manifestation, ils disent les assaillants, ils disent l'adversaire aussi, les gendarmes, ils disent beaucoup ça. ils disent les éco-terroristes. Ouais, tout ça, ça emprunte un lexique de guerre qui considère finalement des manifestations contestataires ou des habitants marginalisés comme des cibles à abattre. Et cette militarisation du langage, en fait, elle date pas non plus d'hier, puisque tous les termes du type guerre de civilisation, guerre contre le terrorisme, c'est utilisé par Manuel Valls, par François Hollande, par Sarkozy, par Macron depuis des années. Et puis, il y a évidemment eu le fameux « nous sommes en guerre » de Macron. On a le seul président du monde qui a fait la guerre à un virus, qui utilise le registre militaire pour parler d'une crise sanitaire. Donc, un peu des réflexions là que je viens d'esquisser, j'en ai tiré un livre qui s'appelle « Nous sommes en guerre », qui est sorti il y a 5 ans maintenant. Et j'ai pas voulu m'arrêter là, puisque dans la foulée, j'ai fait un petit livre qui est juste là, qui s'appelle « Dissoudre », et qui... continue sur cette lancée, mais qui questionne la militarisation du régime politique en lui-même, dans lequel on vit. Plus seulement la police. Cette militarisation, enfin cette question, j'ai voulu la traiter sous l'angle des dissolutions administratives, hein, procédure de dissolution. On en a entendu parler ces derniers jours, puisque la Jeune Garde, le collectif antifasciste, a été définitivement dissous, là, vous avez dû le voir ces derniers jours. Avant ça, il y a eu une tentative de dissoudre les soulèvements de la Terre. Tout un tas de collectifs pour la Palestine également ont été dissous. Et j'ai commencé, moi, à travailler vraiment là-dessus suite à la tentative de dissolution de Nantes Révoltée, d'un média indépendant à Nantes, qui a échoué d'ailleurs. Mais c'est pas dans la majorité des cas, les collectifs visés par une dissolution le sont réellement à l'arrivée. Hein. Et donc j'ai voulu réfléchir à ça parce que cette procédure de dissolution qui est une atteinte extrêmement grave à la liberté de réunion, d'association. Enfin, c'est vraiment une offensive liberticide très grave. Eh bien, cette possibilité de dissoudre une association ou un groupement de faits, comme disent les autorités, elle date des années 30 en réalité, et elle a été créée par la gauche, par le Front Populaire, pour dissoudre à l'époque les groupes fascistes armés qui voulaient renverser la République française. Dans les années 30, donc, il y a des milices d'extrême droite qui défilent en uniforme, qui ont des armes, qui provoquent des bagarres de rue avec des morts, et qui organisent une émeute antiparlementaire en 1934 et qui attaquent le Parlement. Et puis, c'est des groupes fascistes et antisémites comme l'Action française qui vont notamment essayer de tuer Léon Blum. En 1936, l'Action française, un groupe d'extrême droite, va reconnaître Léon Blum dans une voiture dans une rue de Paris, va le sortir au cri de sale juif et va essayer de le tuer, de le lyncher. Et heureusement, Léon Blum est sauvé par des ouvriers syndicalistes au coin de la rue qui voient l'altercation et qui mettent en déroute les fascistes. Vous voyez, c'est dans ce contexte très particulier du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie, du franquisme en Espagne et de groupes d'extrême droite armés qui sont créés les dissolutions, pour protéger la République de la menace d'extrême droite. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer tout ça? Parce qu'en fait, ces procédures très liberticides, elles n'ont eu aucun effet sur la lutte antifasciste, hein, puisque quelques années seulement après, c'est Vichy. Et puis, on sait très bien que les mesures de répression n'ont aucun effet sur l'extrême droite, soit parce qu'elles ne sont pas appliquées, soit parce que, de toute façon, une réponse autoritaire à l'autoritarisme, ça l'alimente. Et s'en remettre à un État qui lui-même est fascisé n'a aucun sens pour lutter contre le fascisme. Mais si je prends le temps de vous expliquer ça, c'est parce que un siècle plus tard quasiment, ces procédures de dissolution, elles ne sont plus utilisées contre les fascistes, mais contre les antifascistes. Elles sont plus utilisées contre les racistes, mais contre les antiracistes. Donc, à travers cette dissolution, cette procédure, il y a eu un renversement quasiment total du sens des mots, des repères politiques et des récits. Et ça, je l'écrivais déjà en 2023-2024. Et en réalité, la séquence qu'on vient de vivre avec la mort de Quentin Derancq, c'est l'aboutissement vraiment absolu de cette dynamique de renversement, puisque l'intégralité des députés français, à l'exception d'une poignée de centristes, a rendu hommage à un nazi. Ce n'est jamais arrivé depuis Vichy, hein, une histoire comme ça. L'intégralité de notre représentation nationale, y compris communistes et insoumis, ont rendu une minute de silence à un nazi. Et dans le même temps, l'antifascisme a été criminalisé comme il ne l'a jamais été depuis la libération. Puisque l'antifascisme est désormais considéré comme le danger pour la République, alors que l'extrême droite est décrite désormais comme un bouclier pour la République. Donc il y a une inversion. Cette inversion, elle est généralisée. Hein. On accuse les féministes d'être responsables du sexisme, les antiracistes d'être les vrais racistes, les pro-palestiniens d'être antisémites. Vous voyez, il y a un travail de brouillage complet et de destruction des repères. Donc la dissolution est une atteinte liberticide et c'est un renversement du sens. Mais elle s'inscrit aussi dans un processus, donc je le disais tout à l'heure, de militarisation de notre régime politique en lui-même, puisque les dissolutions n'ont jamais été autant utilisées de l'histoire que sous Macron, le deuxième mandat. Donc ces cinq dernières années, il n'y a jamais eu autant de dissolutions. Et donc derrière cet usage de dissolution, en fait, c'est tout un arsenal répressif, c'est tout un tas de curseurs autoritaires qui sont poussés au maximum, puisque il n'y a jamais eu non plus autant d'usage de 49-3 que ces trois dernières années, jamais, sous la Ve République. Il n'y a jamais eu autant d'interdictions de manifester par la préfecture depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu autant, évidemment, d'usage de munitions d'armes de la police, puisque là, ça se compte en dizaines de milliers de grenades et de balles en caoutchouc qui sont utilisées chaque année. Voilà, on pourrait continuer la liste longtemps. Donc, vous voyez, là, on est dans un régime qui se militarise lui-même. Oui, et j'ai oublié de le préciser, depuis l'état d'urgence, on a quand même des présidents qui gouvernent avec ce qui s'appelle un conseil de défense, hein, qui est un protocole très particulier, qui permet à un président de décider, de prendre des grandes décisions sous le sceau du secret défense, donc dans son bunker, on imagine Macron dans son bunker sous l'Élysée, et il réunit dans les conseils de défense l'état-major de l'armée, l'état-major de la police française et quelques ministres sélectionnés sur le volet. Vous voyez, par exemple, pendant le Covid, il prenait quand même le ministre de la Santé. Et donc là, donc François Hollande a un peu utilisé le conseil de défense, Macron l'a utilisé comme personne avant lui, et il saisit le conseil de défense apparemment quasiment une fois par semaine. Donc en fait, non seulement le Parlement n'a plus voix au chapitre là depuis que les macronistes sont minoritaires à l'Assemblée, mais on a littéralement un président qui gouverne avec l'état-major policier et militaire dans ce pays. Donc militarisation de la Ve République, qui elle-même est un régime militaire, puisque la Ve République, comme vous le savez, est un régime unique en Europe, puisqu'il a été créé pendant la guerre d'Algérie. C'est une constitution destinée à la guerre et qui est censée trouver des solutions à l'époque à la guerre d'Algérie, hein, en 58. Et pour ce faire, cette constitution, elle est extrêmement verticale, extrêmement autoritaire. Elle permet à un homme, à savoir un militaire, hein, le général de Gaulle, d'avoir les quasi-pleins pouvoirs en France pour répondre à une situation de crise. Mais une fois la crise passée, cette Ve République, elle devait disparaître, être remplacée. Et ça fait plus de 60 ans qu'on vit en fait dans un régime déjà qui en lui-même porte cette dimension militaire et autoritaire. Et donc, comme je le disais, alors cette constitution, elle prévoit, en plus du 49-3 et tout un tas d'autres choses, et l'état d'urgence, elle prévoit l'article 16 qui permet au président d'instaurer une dictature légale en France en cas de menace sur la nation. Voilà, tout ça, ça existe hein, en France. Vous dites ça à des Espagnols, des Anglais, des Allemands, et pourtant c'est pas toujours joli hein, dans les pays voisins, mais vous leur dites qu'on a un président qui peut légiférer sans majorité depuis des années et écraser toutes les manifestations, ils nous regardent avec un peu d'étonnement. Donc cette Ve République, pour finir sur le livre Dissoudre, elle est un petit peu arrivée au bout du curseur de l'autoritarisme. Vous voyez, comme je disais, il a un peu utilisé les curseurs légaux un peu à leur maximum, Macron. Et donc la résolution de cette question, là, peut-être l'étape de plus, c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et qui gouverne de fait avec Macron hein, depuis maintenant quelques années, ou la guerre. Et pourquoi pas les deux? Et donc ce discours de guerre, il n'est pas du tout anodin, effectivement, pour renforcer le pouvoir en place et lui permettre de liquider en fait les garde-fous, ce qui reste des garde-fous démocratiques. Donc ça, c'est un petit peu pour le livre Dissoudre. Et du coup, presque dans la continuité, dans le même souffle, j'ai commencé à écrire sur la guerre directement. Parce que, en fait, Dissoudre, je l'ai écrit au moment de la réforme des retraites. Et quasiment dans le même temps, il y a une petite musique qui a commencé à s'installer en France sur la guerre. Hein, plus seulement nous sommes en guerre contre un virus, mais la guerre, la vraie. avec tout un tas de sondages, hein, parce qu'on est abreuvé de sondages à la con là depuis plusieurs années sur les Français veulent le retour du service militaire. Moi, je les avais recensés. Il y avait quasiment un sondage toutes les deux semaines là-dessus. Les Français aimeraient un gouvernement militaire en France pour régler les solutions de crise. Vous voyez, on nous a imposé comme ça tout un tas. Un jeune Français sur deux est prêt à s'engager au front dans le cadre de la guerre en Ukraine. Enfin, voilà, tout un tas de petits sondages comme ça qui sortaient. Et on sait très bien que dans les sondages, ce qui compte, c'est pas tant la réponse, le pourcentage, puisque très souvent c'est truqué, c'est biaisé, enfin, vous connaissez comme moi les instituts, mais c'est la question qui est posée, qui est décisive. Pourquoi on nous pose cette question? Pourquoi on met ça dans le paysage? Parce que les sondeurs ne posent évidemment pas la question, est-ce que vous voulez partager les richesses de Bernard Arnault, parce qu'il y aurait 80% de oui, est-ce que vous voulez dégager Macron de l'Élysée, ce serait pareil, enfin, vous voyez. Donc, non, là, on pose systématiquement des questions sur la guerre et le militarisme. Et il y a vraiment un sondage vraiment qui m'a, enfin, une analyse médiatique des médias dominants qui m'a convaincu qu'il fallait absolument écrire un petit bouquin sur le sujet. C'est donc dans le cadre de tous ces sondages sur la jeunesse qui a soif d'engagement militaire, etc. Il y a une sociologue qui passait sur RTL, c'était en 2024. Et qui disait, mais de façon très très joviale, très contente, l'antimilitarisme qui caractérisait les anciennes générations a disparu dans la jeunesse. Donc moi, ça me heurte énormément, mais elle trouvait ça super. Et visiblement, le message a été reçu 5/5 par le gouvernement, puisqu'effectivement, là, depuis 2 ou 3 ans, on a une campagne de propagande militariste adressée à la jeunesse d'une intensité absolue. Et de séduction et de rendre désirable la guerre et de pousser la jeunesse vers l'armée qui est colossale. Donc voilà, moi je me suis dit, non mais là, sans vouloir offenser qui que ce soit dans la salle, mais les générations peut-être un petit peu plus expérimentées, je ne sais pas comment dire, ont connu tout un tas de luttes. Le Larzac, c'est une lutte très importante des années 70, contre l'extension d'un camp militaire. Ça ne concerne absolument pas que le Larzac, puisqu'à l'époque, il y a des comités Larzac dans toute la France. C'est des centaines de milliers de personnes. C'est toute une génération, en fait, qui est politisée dans l'antimilitarisme. Ce sont les luttes contre la conscription, donc avec tout ce qui est objecteur de conscience, insoumission. On connaît des camarades qui ont porté ce combat-là jusqu'à se faire enfermer par des tribunaux militaires et se battre pour obtenir le statut d'objecteur de conscience. Les caricatures de Cabu et de bien d'autres antimilitaristes qui étaient massivement diffusées, mais aussi toute la dimension de la culture antimilitariste à gauche, hein, de Boris Vian, le déserteur, Renault qui crachait sur l'uniforme, enfin, tous les chants populaires antimilitaristes, etc. Donc effectivement, cette sociologue a raison, il y a une génération plusieurs qui ont été politisées dans l'antimilitarisme, et les générations qui sont nées à partir des années 90 ne le sont plus, c'est vrai. C'est vrai, et les nuages noirs de la guerre, eux, ils sont en train d'arriver à toute vitesse. Donc voilà pourquoi j'ai voulu écrire un manuel de résistance antimilitariste qui se veut le plus simple et le plus accessible possible pour donner des billes, des éléments, des munitions, entre guillemets, pour réarmer les résistances face à ce discours belliciste. Alors.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est pas grave.
caresser notre peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. C'est enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Nous sommes dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est parti, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tant que ceux qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se promener, ferait mieux de venir dans la tranchée. Camarades sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Pourquoi un manuel et pourquoi maudite soit la guerre ? L'idée d'un manuel, c'est parce que donc. Le bouquin est sorti en octobre dernier et donc en janvier 2025, hein, il y a un an et demi, le gouvernement a annoncé qu'il allait donner un manuel de survie à la population. Voilà. Il y a tellement de mascarades qu'on en oublie, mais voilà, il a dit on va donner un manuel de survie à la population. Ce manuel a été envoyé à l'automne, enfin mis en ligne en tout cas. Et ce manuel en fait vise à préparer la population à des crises. Et ce qui est intéressant, c'est que il met sur le même plan, il dit aux Français, il va falloir se préparer à des crises d'ordre climatique, sanitaire et des menaces de guerre. Comme si finalement la guerre faisait partie d'une sorte d'aléa, d'une fatalité qui de toute façon allait arriver comme un orage en fait. Bon voilà, il va y avoir une guerre, préparez-vous quoi. C'est ça en gros le message. Et ce manuel en plus, il est dans la plus pure tradition du libéralisme. Puisque ce manuel, donc d'une part, il prend les gens pour des cons. Il dit, en cas de crise, stocker de l'eau, stocker des produits de première nécessité, merci. Mais en fait, derrière, c'est vraiment une logique libérale, c'est-à-dire l'État ne vous protégera pas en cas de crise. C'est, voilà, il y aura des crises. Il va y avoir, voilà, mais nous, on ne va pas assurer votre survie. Et il dit aussi, il dit cette première chose, et ce manuel, il dit une deuxième chose, c'est il va falloir obéir, ils disent pas aveuglément, mais c'est l'idée, au corps en uniforme, police et armée. Il faudra suivre les consignes des corps en uniforme. Vous voyez, tout ça, ça contribue d'un climat comme ça. Et donc, bon, moi, je savais pas en janvier dernier, 2025, ce qu'allait exactement contenir ce manuel, mais du coup, on s'est dit avec Divergence, maison d'édition Divergence, ce serait bien de sortir un contre-manuel au même moment. Et donc, qui dit contre-manuel dit une forme courte, très didactique, très accessible, avec un maximum d'éléments factuels pour une autodéfense intellectuelle et puis aussi des pistes de résistance. Et pourquoi maudite soit la guerre? En fait, l'idée c'était de ce livre, c'est pas de réinventer un nouveau logiciel antimilitariste, non, parce que l'antimilitarisme, on a quand même la chance d'avoir un héritage très riche de ces luttes-là, puisque l'antimilitarisme, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'antimilitarisme est aussi vieux que la gauche. L'internationalisme et l'antimilitarisme, c'est normalement parmi les deux fondements des mouvements à la fois socialistes, communistes et anarchistes. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais voilà, l'international, le grand hymne de tous les mouvements socialistes, c'est quand même, dit quand même, non seulement c'est un hymne internationaliste, hein, les travailleurs n'ont pas de patrie, mais il y a quand même un couplet qui dit qu'en cas de guerre, nos balles seront pour nos propres généraux. C'est quand même balèze comme strophe, parce qu'elle est, elle est pas juste antimilitariste, ce passage. C'est-à-dire que nous ne ferons pas la guerre contre d'autres travailleurs étrangers, on préférera tirer sur nos propres états-majors, nos propres dirigeants. C'est quand même ça que ça dit. C'est un hymne. Il me semble même que le PS chante encore l'international dans ses congrès. Alors c'est une mascarade absolue, mais voilà, normalement, l'antimilitarisme, c'est au cœur de notre histoire. Alors, histoire qui a été largement oubliée. Et qui a été largement abandonné, mais peut-être on en parlera tout à l'heure dans le débat, puisqu'il n'y a pas un parti de gauche pour rattraper l'autre sur le sujet. Et donc pourquoi maudite soit la guerre? Parce que j'avais envie à la fois de m'inscrire dans cet héritage, de ne pas prétendre réinventer l'eau chaude, et en même temps de dire on fait un manuel, on s'adresse aux jeunes générations, on essaye collectivement de reconstruire un mouvement antimilitariste populaire, large, le plus rejoignable possible. Et donc, maudite soit la guerre. Alors, il y a plein de belles formules antimilitaristes. Hein. Il y a pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, paix aux chaumières, guerre au palais. Vous voyez, il y a toute une histoire. Et puis, il y a le mot d'ordre guerre à la guerre, j'en parlerai tout à l'heure, voilà, qui est un beau mot d'ordre à la fois des anarcho-syndicalistes et de révolutionnaires communistes comme Rosa Luxembourg, enfin, qui est un beau mot d'ordre parce qu'il est pas juste passif et pacifiste un peu bêlant, mais il est offensif. Mais c'était déjà pris. Et donc, maudite soit la guerre, je me suis dit qu'à la fois c'était quelque chose d'assez clair, mais ça s'inscrivait dans une histoire du temps long. Et maudite soit la guerre, c'est l'inscription sur un monument aux morts de 14-18. Voilà. Donc moi, c'est cette histoire-là que je connaissais, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, parce que à partir de 1918, comme vous le savez, la Troisième République, qui a envoyé toute une génération d'hommes à l'abattoir, hein, quand même, la Troisième République dit on va construire des monuments aux morts dans toutes les communes de France pour les morts de 14-18. Donc il y a à la fois de l'argent public, mais des souscriptions populaires. Les gens donnent énormément d'argent. Et il y a un monument aux morts de 14-18. Il y a un monument aux morts de 14-18 dans toutes les communes de France, les 30 000 communes de France, que vous alliez même dans la plus petite commune, le plus petit village, vous aurez un monument aux morts de 14-18. Et donc, il s'avère qu'à Gentiou, cette petite commune de la Creuse, on a un maire qui revient de la guerre. Un maire qui a subi les gaz de combat, qui est revenu écœuré de la Première Guerre mondiale, et qui dit « Ok, on va faire le monument aux morts, mais on va en faire un antimilitariste. » Et donc il va prendre le contre-pied de tous les monuments qu'on connaît, un peu cons, avec des soldats, vous voyez, il y a des coques, des casques, des drapeaux français, enfin bon, vous connaissez toute la symbolique cocardière. Et lui, il choisit de faire construire un écolier, un enfant, en tenue, en tablier d'écolier, qui lève le poing face au monument aux morts où sont inscrits les noms des défunts de la commune. Donc on imagine sans peine que cet enfant, c'est peut-être un orphelin de Gentiou, qui maudit la guerre et qui maudit peut-être la guerre qui a tué son frère, son père, on ne sait pas. Et ce monument aux morts antimilitariste, pendant des décennies, alors l'État français n'a pas osé le casser, mais pendant des décennies, il a été désavoué, et à côté de Gentiou, il y a un camp militaire à la Courtine, et quand les soldats traversaient cette commune, ils avaient ordre de détourner le regard collectivement du monument aux morts pour le désavouer. Et finalement, il a été officialisé que dans les années 80, ce monument de Gensiou. Et c'est encore aujourd'hui un lieu où les antimilitaristes et les pacifistes se réunissent chaque année le 11 novembre. Alors, il y en a quelques-uns d'autres hein, qui ont maudit de soi la guerre en France, mais voilà, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main. Celui-là est le plus connu. Et maudit de soi la guerre, en fait, je me suis rendu compte que c'est un cri qui est attaché à ce monument-là, mais en fait, qui a traversé les époques, parce que c'est aussi le nom d'un film belge antimilitariste qui est sorti au début de l'été 1914, film en noir et blanc, visionnaire, qui dénonce la guerre qui va arriver, donc on voit des batailles, et qui dénonce le militarisme. Et puis, maudite soit la guerre, c'est déjà dans une chanson de la Renaissance, le Comte d'Orange, qui dénonçait déjà la guerre au XVIe siècle. Récemment, il y a une chanson, La rue des Lilas, dont un morceau du refrain, c'est maudite soit la guerre. Donc en fait, c'est à la fois un slogan qui puise dans une histoire, qui est un slogan très actuel et qui dit ce qu'il faut dire. Donc voilà un petit peu pour le cheminement. Alors qu'est-ce que contient ce manuel? Comme je l'ai dit, il peut se lire, si vous ne l'avez pas encore lu, dans le désordre, puisque c'est vraiment une boîte à outils. Alors, c'est mieux de le lire dans l'ordre, mais si vous n'avez pas le temps et si vous voulez vous intéresser à un aspect en particulier, c'est une boîte à outils, vraiment. Vous pouvez aller puiser des données, des infos, en plusieurs parties, mais il y a quand même une grosse introduction et une grosse conclusion avec des pistes de résistance et un peu des analyses plus d'ordre philosophique. Mais le premier objectif de ce manuel, c'est quand même de contrer des idées reçues très fortes qu'on entend en permanence. Et peut-être pour en citer une, là d'emblée, une des premières idées reçues qui sonne comme une évidence, c'est ce mot « réarmement ». On l'entend, hein, réarmement civique, réarmement démographique, il faudrait réarmer. Voilà, c'est devenu un slogan politique absolument indiscutable. Mais en réalité, si on dit réarmement, ça insinue qu'il y aurait eu un désarmement. Donc finalement, on a tous avalé déjà cet élément de langage marketing. Parce que, je suis désolé de l'annoncer, mais je suis face à un public averti, donc vous le savez sûrement, il n'y a jamais eu de désarmement ni dans le monde ni en France. C'est totalement faux. Mais Macron et ses sbires ont installé cette idée-là, et on l'entend en permanence, mais on va pas autour de nous, mais on va pas rester désarmés. Mais comment on va faire si on débloque pas des budgets d'armement, comme si la France avait pas d'armée, quoi. Et Macron, il l'a dit dans ses discours, il dit « Nous avons vécu sur les dividendes de la paix, c'est terminé. » Donc voilà, et en plus, il parle comme un banquier, quoi, comme s'il y avait eu des dividendes de la paix, comme ça, que la France était un pays magnifique, irénique, pacifiste. Déjà, l'histoire de la France et de l'Europe, globalement, c'est des boucheries à échéance régulière depuis à peu près 2500 ans, hein, quand même. Il faut le dire, on est le continent le plus belliqueux et belliciste du monde, qui a enfanté quand même deux guerres mondiales. Mais si on prend le cas de la France, c'est un pays qui a, entre Napoléon et la Seconde Guerre mondiale, déjà, c'est un pays qui a constamment été en guerre, hein, de 1871, les guerres coloniales, la Première Guerre mondiale, etc. C'est un pays qui a constamment été en guerre ou en opération militaire. Mais bon, vous allez me dire, oui, mais peut-être que ça s'est calmé après la Seconde Guerre mondiale. Absolument pas. Si on prend seulement la séquence des années 60, c'est-à-dire des décolonisations, prenons ça, jusqu'aux années 2020, la France a mené 60 opérations extérieures, opérations de guerre, en 60 ans. Ça, c'est un décompte qui a été fait par Survie, l'association sur la France-Afrique, parce que ces opérations extérieures, c'est ultra majoritairement dans ce qu'on appelle le précaré africain de la France, hein, c'est-à-dire les anciennes colonies africaines de la France. Donc ça veut dire quasiment une guerre. Donc la France a constamment été en... vous voyez, Barkhane, Serval, tous ces noms-là qu'on entend parfois dans les médias, la France a constamment été en guerre. Elle ne s'est jamais arrêtée, il n'y a pas eu de dividende de la paix, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pourquoi on a fait la guerre? Pour garder la main sur, d'une part, une influence politique en Afrique, mais aussi des ressources. Hein. Total est en train d'installer des gazoducs, l'uranium, etc. Enfin, tout un tas de ressources en Afrique de l'Ouest. Si Bolloré a pu faire fortune en Afrique, c'est aussi parce qu'il y avait des militaires français qui assuraient sa sécurité, etc. Donc la France a toujours été en guerre, c'est pas vrai qu'il y a eu un désarmement. Deuxièmement, la France a toujours eu un des appareils militaires les plus puissants du monde. Donc, d'une part, en termes de production, puisque il faut le dire et le répéter, même si maintenant, je crois que cette donnée, elle a commencé à être bien entendue. On est le deuxième exportateur d'armes du monde, la France. Le deuxième exportateur. Derrière les USA. C'est-à-dire que, quel que soit quasiment le théâtre de conflits militaires autour de la planète, de Gaza au Soudan au Congo, il y a des armes françaises ou des composants made in France, frais à côté de chez nous. Et ça, il faut bien l'avoir en tête quand on pense que la France serait désarmée, passive et pacifique. Et puis la France est une puissance nucléaire et elle a, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les 60 opérations, c'est un des rares pays du monde qui a des capacités ce que les militaires appellent des capacités de projection, c'est-à-dire envoyer des mecs armés, lourdement armés, à l'autre bout du monde. Hein. Je veux dire, non seulement on disait en Afrique, mais aussi dans les colonies françaises. Hein. Mayotte, la Kanaky, ils sont capables d'envoyer en Kanaky, à l'autre bout du monde, des milliers de mecs armés pour aller mater une rébellion. C'est pas tous les. L'Espagne n'a pas des capacités de projection, par exemple. L'Italie non plus. Donc voilà, on est un des pays les plus militarisés du monde. Et puis, donc, il n'y a pas eu de désarmement. Et puis, est-ce qu'à l'échelle planétaire, il y a eu un désarmement? Eh bien, malheureusement, non plus. Alors, on pourrait se dire, en fait, qu'il y aurait eu une période un petit peu sympa entre la chute du bloc de l'Est et puis peut-être aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça l'idée reçue, quoi. Qu'il y ait quand même eu la guerre froide, qui n'était pas froide partout, puisqu'en fait, ça a été une succession de guerres atroces par pays interposés dans le sud global. Mais en fait, même depuis la guerre froide, quand on regarde les chiffres des dépenses militaires mondiales en armement, en 1988, 89, 90, il y a autour de 1400, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur. À la fin de la guerre froide, il y a 1400 milliards de dépenses militaires mondiales. C'est un calcul qui a été fait par un centre d'études à Stockholm sur la paix. Et ils ont calculé en dollars constants pour qu'on puisse se faire une idée hein, en comptant l'inflation. Donc 1400 milliards à la fin des années 80, début des années 90. C'est vrai qu'il y a une légère baisse des dépenses militaires mondiales pendant quelques années au début des années 90, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les guerres, puisqu'il y a les guerres en ex-Yougoslavie, etc. Mais en fait, dès le début des années 2000, les États du monde dépensent déjà plus en armement que à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que dès le moment de la fameuse du 11 septembre, de la guerre contre la terreur de George Bush, donc ensuite la guerre en Irak, en Afghanistan, etc., on est déjà à plus de 1500 milliards. Donc on est déjà plus armé que au moment de la confrontation entre blocs. Et là, donc en 2026, les dépenses militaires mondiales, c'est 3000 milliards. Donc on est plus du double de la fin de la guerre froide. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de désarmement, comme on pourrait le penser, mais là, il y a au contraire un capitalisme de guerre qui est en train de se structurer et d'accélérer et d'organiser une course à l'armement. Et qui dit malheureusement course à l'armement, dit utilisation des armes. Hein. Ce n'est pas des dépenses qui sont là pour faire joli, on le sait malheureusement dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu une des idées reçues, le mot de réarmement. Dans les autres idées reçues, mais en fait, je me rends compte que je viens d'y répondre, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais la France doit bien se défendre face à ses ennemis. Mais vous proposez quoi? Vous êtes des bisounours, hein? Bon, vous voyez, comme je viens de le dire, la France entend d'une part, en tant qu'exportateur d'armes, contribue à déstabiliser la paix mondiale et pas à la maintenir, entre guillemets. Et puis, je l'ai dit, hein, on est un pays qui est dans le camp des agresseurs. Et ça, je me permets de prendre un peu le temps de le rappeler, parce que ça, on l'entend même à gauche. Hein. On l'entend à LFI, on l'entend chez Les Verts, on l'entend chez un influenceur comme Usul, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est YouTuber, etc. Et là, il a complètement vrillé à fond armement, etc. Et il dit, en gros, son élément de langage, c'est de dire « Il faut armer les démocraties libérales contre les empires. » Donc les démocraties libérales, c'est nous, hein. C'est nous les gentils. Bon, déjà, on peut un petit peu émettre un léger doute là-dessus, puisque une démocratie libérale avec, comme je l'ai dit, des 49-3 dans tous les sens, l'extrême droite à 40% etc. Bon, voilà, déjà, ça c'est une petite question. Est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait défendre à tout prix face aux méchants. Et puis, comme je viens de longuement de l'expliquer, la France a des capacités militaires parmi les plus offensives et équipées du monde. Donc en fait, la fameuse démocratie libérale française, elle est très très armée et elle dépense d'ailleurs quasiment autant en armement que la Russie. Donc ceci étant posé, au-delà, il y a plein d'autres petites idées reçues hein, qui sont déconstruites. Je vous invite à les découvrir. Et puis ensuite, ce manuel, il aborde voilà, une série de points, les liens entre la guerre et le capitalisme, la guerre et l'État. Je vais pas du tout vous les faire. Hein. Voilà, l'économie de guerre, en plus, on vient d'en parler, mais voilà que le capitalisme, c'est la guerre par définition, puisque c'est l'accaparement des ressources et la prédation. Donc la guerre et l'État, autoritarisme, ça me semble important aussi, puisque les guerres sont menées par les États, mais ce sont aussi elles qui construisent les États d'une certaine manière. Puisque on sait que les premières vraies guerres, puisque c'est là aussi il y a une idée reçue que les hommes ont toujours fait la guerre. De toute façon c'est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, voilà ça c'est la lecture libérale aussi. L'homme est un loup pour l'homme, hyper violent. D'ailleurs il faudrait un État, un Léviathan, selon Hobbes, pour en fait protéger les hommes d'eux-mêmes parce qu'en fait ils savent pas se gérer. En réalité, ce qu'on voit, c'est que les premières vraies guerres, c'est-à-dire avec des armées constituées qui sont capables d'aligner des milliers d'hommes, ou des centaines en tout cas, et de mener des conquêtes territoriales et de causer un nombre de morts conséquent, c'est avec les premiers États, historiquement. Les premières vraies guerres attestées par l'archéologie, c'est les premières cités-États de Mésopotamie, c'est-à-dire des structures suffisamment hiérarchisées, inégalitaires, et organisé pour créer un corps spécialisé qui est capable de faire la guerre avec des productions d'armes. Et les premiers vrais conflits militaires attestés, c'est entre deux cités pour s'accaparer un cours d'eau, de la terre cultivable et capturer des esclaves dans la cité voisine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme différence entre l'acte de violence qui existe dans la nature, les chimpanzés par exemple, ils se bagarrent, et l'acte de guerre. C'est-à-dire que quand il y a deux tribus nomades qui se croisent et qui éventuellement font une bagarre et qui causent quelques morts, c'est une bagarre. C'est une violence intergroupe éventuellement. La guerre présuppose une organisation sociale, un corps militaire, éventuellement l'accaparement, une prise de guerre, hein, par définition, etc. Qu'il y ait des bagarres parce que une tribu en a croisé une autre. Mais encore une fois, moi, je demande les éléments, parce qu'effectivement, il faut une organisation sociale pour produire des armes dans le but d'attaquer un autre groupe. Donc voilà. En tout cas, les vraies guerres organisées. Après, bah, je parlais tout à l'heure du Spiril à l'Institut à Stockholm. Il pose aussi des critères pour définir une guerre. Donc il y a des seuils, 1000 morts, par exemple. Voilà. Une bagarre qui fait 5 blessés et 1 mort, c'est pas une guerre, par exemple. Mais bon. Bon, voilà, après ça, on peut en débattre. Après, moi, je m'inscris complètement en faux sur qu'il y aurait une nature humaine foncièrement violente et guerrière et mauvaise. Parce que si on croit aux constructions sociales, etc., on peut questionner aussi le fait qu'il y aurait une nature profonde de l'homme qui viserait à tuer les autres. Et ce qu'on voit après, voilà, il y a plein d'auteurs qui, au contraire, ont dit que c'est plutôt l'empathie et l'entraide qui ont permis aux premières sociétés, pour le coup primitives, entre guillemets, de survivre. Enfin bon, voilà, vous connaissez cette histoire de cette... comment elle s'appelle cette chercheure, cette préhistorienne, qui dit, voilà, le début de l'humanité, et elle brandit un tibia qui a été ressoudé, et voilà, parce que ça implique que, justement, on ne laisse pas mourir quelqu'un qui est plus capable de marcher sur le côté, et que le groupe social va se sacrifier pour l'aider, rester avec elle, la soigner, etc. Ou le soigner d'ailleurs. Il me semble que c'est un fémur de femme. Mais voilà, au contraire. Et c'est dans cette situation-là. Si c'est la guerre de tous contre tous, il n'y a carrément plus de corps social, il n'y a plus rien. Les gens de guerre, plutôt, sont des êtres antisociaux. Voilà. Donc, il y a l'idée de ces questions étatiques, mais du coup, je passe rapidement là-dessus, mais parce que la guerre est un vecteur de construction de l'État. Là, pour le coup, l'État, je fais un grand saut dans le temps, hein, mais est un vecteur de construction de l'État-nation moderne tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que pour créer une nation, une homogénéité factice, hein, pour créer une unité, il faut créer des, il faut générer un ennemi. Alors, il peut être intérieur, mais il est surtout souvent extérieur. Et le cas le plus parlant, c'est l'unité allemande, puisque l'Allemagne, en fait, c'est un pays qui s'est unifié qu'en 1871, donc très récemment, en fait. On a l'impression que c'est un pays qui a toujours existé. Et c'est un militaire qui a unifié l'Allemagne, et il disait de façon... Donc, l'ennemi commun, c'est la France, hein, pour unifier l'Allemagne. Il a provoqué la... Bon, il, face à Napoléon III, ils ont provoqué mutuellement une guerre complètement débile. Mais Bismarck, ce militaire, il dit « L'unité de la nation doit se faire par le fer et le sang ». Et je trouve que c'est un très bon résumé, puisque la plupart des nations modernes, elles se sont créées, elles se sont unifiées par la guerre. Et là, on vous allez dire « Oui, mais la France ?» Parce que c'est vrai que la France, son mythe fondateur, c'est pas tellement la guerre, c'est la Révolution française, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que l'unification vraiment linguistique... Je prends le temps de dire ça parce qu'on est au Pays Basque, mais je le dis aussi en Bretagne. L'unification linguistique et administrative de la France, c'est 14-18. C'est le moment où on envoie des Bretons, des Basques, des Corses dans les mêmes tranchées. D'ailleurs, ils se font largement laminer et en plus, certains comprenaient pas les ordres, donc ils se faisaient fusiller. Mais c'est le moment où tout le monde est obligé de parler français. Et donc la vraie, même si la Troisième République a énormément fait pour interdire les langues régionales, la Première Guerre mondiale est vraiment un moment d'unification linguistique un peu forcé par la guerre.
Donc, en fait, Valmy aussi.
Voilà, Valmy, alors à l'époque de Valmy, absolument, la France, c'est une pure fiction de la... Je veux dire, un breton du Finistère, aller se battre dans l'Est de la France, pour lui, c'est complètement un autre univers. Un Basque aussi, j'imagine. Non, la vraie, ça ne représentait pas une réalité tangible.
Ça fait une nation.
Voilà. Évidemment, les enseignants ont beaucoup travaillé, l'éducation nationale a beaucoup travaillé. Eh ben tiens, vous me faites une transition, donc éducation et guerre. Et donc, effectivement, l'éducation et donc toutes ces questions-là sont cruciales pour préparer les esprits à la guerre. Et ça, effectivement, comme tu dis, sous la Troisième République, il y a ce qu'on appelle les hussards noirs de la République, qui étaient les profs, les instits. Et donc, d'une part, ils avaient ordre... Je connais pas assez l'histoire basque, mais en tout cas, en Bretagne, d'interdire catégoriquement aux enfants de parler breton. Sanctions, exclusion, humiliation et coups, et voilà, d'unifier la langue. Mais ils avaient aussi pour consigne, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, de préparer les enfants à la guerre. Et donc, ils organisaient notamment des bataillons scolaires où les gamins, dès l'équivalent de l'école primaire, faisait sur des temps de pause des petits défilés avec des petits fusils en bois pour voilà préparer à être un futur citoyen soldat, etc. Et dans les classes, quand on avait, alors nous on avait des autocollants ou des gommettes quand on avait bien répondu, eux c'était des cartes postales de bataille par exemple. Donc voilà, il y avait vraiment la Troisième République savait que l'école c'était vraiment ce qui allait toucher l'école laïque publique obligatoire qui était très bien par ailleurs, mais était un moyen de d'uniformiser et de conditionner tous les enfants quel que soit leur milieu, et donc de les préparer à la guerre. Et donc, ils ont fait énormément ça dans les années de la Belle Époque, hein, en gros, avec vraiment un conditionnement des enfants vers la guerre. Et les enseignants eux-mêmes étaient très républicains, très engagés pour la République, et ils se sont fait décimer. Il y en a beaucoup qui sont engagés en 14-18. Ils se sont fait décimer par la guerre 14-18 aussi.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.